Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreu. Spécial Franz Fanon, deuxième partie. Franz Fanon, un outil de travail avant tout. Entretien avec Saïd Bouamama. On va passer à l'émission L'Histoire continue. La semaine dernière, il y avait un colloque sur Franz Fanon, dont Une vie brève et un héritage immense, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, très mal connu en France, mais qui est intéressant à voir. Comme dans tout auteur théoricien, quel qu'il soit, il y a toujours des choses à prendre, à laisser, mais il faut tenir compte aussi que les gens écrivent dans les contextes de leur époque. Donc, on ne va pas reprocher certaines choses. Et Franz Fanon a vécu de 1925 à 1961, et ses écrits concernent plutôt la période de la colonisation et de la décolonisation, et plus particulièrement de la guerre d'Algérie.
Tellement, oui.
Donc voilà, à ce niveau-là. Et là, j'ai fait sur un entretien avec Saïd Bouamama, qui était parmi les gens qui sont intervenus dans le colloque, où j'avais eu quelques désaccords, mais justement, c'est pour ça que l'intérêt de cette interview. Alors, Saïd Bouamama, qui est un sociologue, un militant associatif et politique de nationalité algérienne, mais qui réside en France.
Oui.
Et jusqu'en 2018, date l'année où il a pris sa retraite, il avait été chargé de recherche et formateur de travailleurs sociaux au sein de l'association Intervention, Formation, Action, Recherche. Et il est cofondateur avec Yvon Fautier, Jessie Chaumont et Marion Dalbert du Phare, Praxis, Histoire, Action, Recherche, Éducation populaire pour l'égalité. Saïd Bouamama développe une sociologie des dominations prenant pour objet les questions liées aux quartiers populaires et ouvriers, à l'immigration et à la place des personnes issues de l'immigration dans la société française, les jeunesses et la société des différentes formes et expressions des discriminations de sexe, de race, entre guillemets, et de classe. D'où l'intérêt qu'il porte sur l'étude de Franz Fanon.
D'accord.
Il est aussi participé aussi dans la contribuer au dictionnaire des inégalités aux cultures coloniales. Il est affilié à la CGT, porte-parole du comité de soutien aux sans-papiers de Lille et membre de la coordination communiste. Il a participé aussi à la marche pour l'égalité contre le racisme en 83, donc dite la marche des beurs, terme qui récuse, nous aussi d'ailleurs, et au moment similaire des années qui suivent, convergence 84, divergence 85, et il fait parmi des fondateurs du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, le FUI. Créé en 2019 à la suite de deux rassemblements nationaux, le Forum National des Quartiers Populaires et les Rencontres Nationales de Lutte sur l'Immigration.
Donc quelqu'un engagé en tout cas.
Voilà. Alors c'est vrai qu'il avait signé aussi la tribune « Nous sommes les indigènes de la République ». Il a été cofondateur du MIR, Mouvement des Indigènes de la République. Mais il faut préciser quand même qu'il n'a jamais été membre de l'association pour des divergences d'analyse d'une part et sur les liens entre crime, immigration et classe sociale d'autre part, sur des questions d'alliance aussi. Donc il a signé la tribune des indigènes de la République. Il n'est pas pour autant membre pour raison de divergence. Voilà.
D'accord.
Alors, il y a deux interviews. Alors, d'abord, une première interview qui est sur le capitalisme et colonisation. Et là, j'ai posé trois questions concernant le capitalisme, matrice de la colonisation et de l'esclavage, sur les sociétés inégalitaires avant la colonisation et sur la violence des peuples, des classes opprimées. On va écouter cette première interview.
La colonisation comme l'esclavage sont quand même le résultat du capitalisme. Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus?
Alors, c'est à la fois vrai que l'esclavage et la colonisation sont en lien avec le capitalisme et à la fois, il faut expliquer un peu plus les liens entre les trois. En réalité, capitalisme, colonialisme et racisme sont une même réalité. C'est les trois facettes d'une même réalité qui, historiquement, naissent à la même période. C'est-à-dire que le mode de production capitaliste, quand il commence à se développer ici, immédiatement, il s'étend dans la colonisation et il exporte le capitalisme dans les colonies. Les colonies, c'est le capitalisme pur. Au moment où, effectivement, on a la première colonisation, sous prétexte qu'on a découvert l'Amérique par hasard et qu'il faut évangéliser les Indiens, en réalité, ce qui se met en place, c'est ce complexe capitaliste, colonialiste, et raciste, puisque pour que cela puisse être possible, eh bien, il y a besoin de le justifier, de le légitimer, et ça va donner naissance au racisme. Et donc, c'est en 1492 que naissent les processus qui vont déboucher jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire par la puissance d'États puissants qui dominent le reste de la planète et qui mettent toute l'économie du monde au service uniquement du profit.
Mais par contre, le dominant dominé, ça existait même avant la découverte de l'Amérique. Il y avait les seigneurs et les serfs, comme disait Marx. Il y avait le prolétariat, la bourgeoisie. Donc, et même dans les sociétés, disons, pré-coloniales, ce n'était pas des sociétés égalitaires non plus. On ne peut pas dire que l'Afrique était solidaire. Et même, je veux dire aussi, il y avait aussi des sociétés, quand Cortés a conquis les Aztèques, c'était un petit groupe d'hommes de militaires, ils étaient alliés avec d'autres tribus indigènes, qui étaient, parce que les Aztèques étaient des Afro-impérialistes. Et l'autre cas, je peux parler de cas, c'est le cas des Zoulous. Chaque Zoulou a créé son propre empire. il a dominé les autres tribus, notamment les Auxerre, dont il est issu de Nelson Mandela. Alors, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, disant qu'il y avait quand même des dominations avant, que le monde n'était pas parfait avant?
Ce qui se passe en 1492, c'est l'unification du monde. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait bien entendu des sociétés dans lesquelles il y avait de l'exploitation et avait une dynamique historique propre à chacune de ces sociétés. Là, à partir de 1492, on structure le monde autour d'un pôle dominant et tout le reste est dépendant de ce pôle dominant. C'est pour cela que moi, je préfère appeler impérialisme cette période-là, enfin la période, le capitalisme, la période qui naît là, et l'impérialisme, ce qui va venir après.
Que certains appellent la première mondialisation.
Absolument, c'est la première mondialisation. Et on le voit bien avec le racisme, avant 1492. Est-ce que les sociétés étaient égalitaires? Loin de là. Il y avait effectivement des idéologies du rejet. Mais c'était lesquelles? C'était celles qui étaient liées à l'état des sociétés. Par exemple, on avait de la xénophobie, c'est-à-dire la peur de ce que je ne connais pas, parce que c'est des sociétés qui avaient beaucoup moins des chances que ce que nous avons aujourd'hui. Et il y avait l'eurocentrisme, la préférence pour son propre groupe. Mais la théorisation, une idéologie qui dit, un, il y a des races, deux, elles sont inégales. Trois, celles qui sont supérieures sont légitimes pour exploiter celles qui sont inférieures. On ne trouve aucune trace dans l'histoire de l'humanité de ce type d'idéologie, si ce n'est en 1492, avec la charte de Grenade, c'est-à-dire en même temps la conquête des Amériques et la Reconquista, qui est une colonisation, puisque les Arabes qui étaient installés là étaient là depuis 8 siècles, ils n'étaient pas là depuis 15 jours, puis, et les Juifs qu'on va chasser. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on retrouve les plus vieilles théorisations du racisme. Donc on voit bien qu'il y a à la fois, dans les sociétés d'avant le capitalisme, bien sûr une lutte des classes, bien sûr des exploitations, mais que ce que fait le capitalisme, c'est qu'il s'étend au niveau mondial et qu'il met en dépendance des sociétés entières vis-à-vis d'autres sociétés.
Alors, une autre question, là, tu as parlé de, que François Manon parlait de la violence, donc, due à la violence coloniale. Mais, Michel Vauvel, qui était un spécialiste de la Révolution française, quand il parlait de la violence des révolutionnaires français, les têtes découpées au bout d'un piquet, qui était sur un acte de violence qui pourrait être horrifié, disait, mais c'était la conséquence de la violence de la société d'ancien régime. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec ce système-là, dominant-dominé?
Absolument. Le parallèle, il est entier. Et je pense qu'il a été bien résumé par Mandela, qui a, en une phrase, dit « Ce n'est jamais le dominé qui choisit les formes de la lutte, c'est toujours le dominant. » Tous les dominés de l'histoire, comme d'aujourd'hui, préféreraient qu'on accède à leurs revendications d'égalité par une simple pétition ou un simple courrier. « Oh, vous nous avez oubliés, on est maltraités. » C'est parce que le dominant, bien entendu, n'a pas intérêt à traiter le dominé de manière égalitaire que la domination continue, ce qui amène le dominé, au bout d'un certain temps, à dire « Puisqu'on ne m'entend pas de manière non violente, je vais me faire entendre autrement. » Et donc, s'il y a violence, c'est parce que c'est la seule manière de faire entendre les revendications d'égalité aujourd'hui.
Dans le débat de la conférence, j'avais oublié de parler du capitalisme. J'ai parlé du colonialisme, du racisme, mais j'avais été intervenu en disant que, oui, mais la matrice des deux, c'est quand même le capitalisme, notamment le capitalisme prédateur, qui est apparu au moment de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, en Amérique latine, on veut déboulonner Christophe Colomb, parce que c'est lui qui, indirectement, d'ailleurs, même par hasard, parce que l'Amérique a été découverte par hasard, qui a ouvert la porte, disons, au capitalisme prédateur, c'est-à-dire l'appropriation des terres, l'exploitation des indigènes, la mise en esclavage et la déportation des Africains. Et ce capitalisme des prédateurs en Amérique, après, a continué au 19e siècle en Afrique. Pur des cas est indépendant, entre guillemets, du Congo, c'est-à-dire la propriété privée de Léopold III dans le Congo belge. C'était un des pires cas, même si ailleurs, c'était pas non plus guère mieux.
Oui, en Algérie notamment aussi.
Oui, oui, non, mais là, le Congo, c'est les mains coupées parce que les Africains qui ne faisaient pas assez de travail.
L'Algérie aussi. Les gens fumés dans les grottes.
Voilà. Que je faisais un peu la remarque que les sociétés précoloniales n'étaient pas non plus des sociétés égalitaires, donc, et que, bon, les Aztèques étaient des affreux impérialistes. C'est pour ça que Cortés avait peu d'hommes à pu conquérir l'empire aztèque. Et que, par exemple, le Cazulu avait créé son empire avant l'arrivée des Européens et avait dominé d'autres tribus, dont les Xhosa, dont était issu Nelson Mandela.
D'accord. Voilà.
C'est pour ça que la nuance est peut-être faite là-dessus. Et sur l'esclavage, c'est vrai que le racisme a été fait pour justifier à la fois l'esclavage et la colonisation. Ça, c'est indéniable au 19e siècle par les Européens. Mais il semble quand même que des textes plus anciens aussi justifient par plusieurs théories, la théorie des climats, pour justifier la race inférieure et supérieure. supérieure, aussi pour justifier l'esclavage dans le monde arabo-musulman, mais aussi dans le monde byzantin aussi. Donc,
dans le monde romain aussi.
Oui, le monde romain aussi. Et c'est vrai que l'Empire romain s'est aussi créé en appropriant des terres des indigènes.
Notamment.
Bon, même si l'Empire romain, la colonisation romaine, c'est pas tout à fait pareil que la colonisation européenne, parce que les Romains, disons, avaient l'habitude de s'entendre avec les populations conquises pour éviter les émeutes. Alors là, je vais poser une autre question. La deuxième interview, c'est le racisme comme instrument pour diviser les travailleurs nationaux et étrangers. Et là, on va parler aussi de la question sociale et du racisme dans la question sociale.
D'accord, donc le racisme pour diviser, c'est ça ?
Voilà.
Alors, est-ce que tu connais un texte qui était paru en 1903, qui s'appelait « La province italienne » ? C'est un texte qui a été publié par la Ligue de la Patrie française, bon, un groupe d'extrême droite, et qui disait que les Italiens envahissaient la province, que les Italiens prenaient le boulot, que la délinquance, c'est que les Italiens, que c'était une colonisation organisée, c'était le grand remplacement de la province par les Italiens. Mais est-ce que ce discours-là anti-italien n'est pas aussi transmission du racisme sur les immigrés ? On retourne pas le mot italien par autre chose, c'est le même discours.
Complètement. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Manuel stratégique de l'immigration », dans lequel j'essaye d'aller regarder les discours qu'on a tenus sur les immigrations antérieures, oui, et de les comparer aux discours tenus ici. Pour les Italiens, il y a celui-là, mais il y en a bien d'autres en réalité. Il y en a bien d'autres.
Il y a des Italiens, mais voilà, il y a des Arméniens aussi.
Il y a des discours à l'Assemblée nationale sur les Italiens. Ça fait frémir, quoi. Et j'ai même été regarder ce qu'on a raconté sur les toutes premières immigrations, qui étaient les immigrations internes à la nation française. Ce qu'on disait sur les Auvergnats. Eh bien, c'est ce que je démontre, c'est que c'est exactement les mêmes thèmes. Par exemple, j'ai repéré des députés à l'Assemblée nationale qui disaient que les Italiens étaient communautaristes. Oui. J'ai rencontré sur les Auvergnats des gens qui disaient ils ne sont pas chrétiens parce que leur manière de penser le christianisme n'était pas la même que... Et donc, en réalité, tous les schémas qui sont utilisés aujourd'hui contre l'immigration ont été utilisés exactement de la même manière. Ils refusent d'apprendre la langue française, ils sont communautaristes, ils préfèrent vivre entre eux, ils sont sales, ils ne savent pas utiliser le progrès technique. Tout ça, on le retrouve pour les Espagnols, pour les Italiens, pour toutes les immigrations et même pour l'exode rural. Et
même pour les Marseillais. Il y a le mépris des Marseillais, l'acheter des Marseillais en 14. Quoi, ils ont reculé alors qu'ils s'effacent de la théorie allemande. Je te remercie pour m'en faire toutes ces comparaisons et savoir. Mais là aussi, autre chose que je pensais, par contre, on parlait de séparatisme, mais De Gaulle parle aussi de séparatisme, mais lui, il visait les communistes. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle ?
Absolument. Si on regarde le moment où De Gaulle parle de séparatisme par rapport aux communistes, et c'est dans l'idée qu'on n'a pas le droit de critiquer son gouvernement national. Donc ça veut dire que tous les dominés d'une nation doivent se taire. C'est ça qui est mis derrière, et trouve des choses qui ressemblent aujourd'hui. Hein, quand on parle d'islamo-gauchisme aujourd'hui...
Parce que j'ai dit aux bolcheviques.
Absolument. Absolument, ça fait penser à ça. Et on entend aussi aujourd'hui qu'il y a des gens qui, dans les manifestations, sont antinationaux, etc. Le discours sur l'existence d'une anti-France n'est pas nouveau, et on le retrouve aujourd'hui.
Oui, c'est la gestion de Bolloré. Et une autre question, alors, qui peut me porter un peu inquiétude, c'est dans l'identité immigrée qu'il n'y a pas non plus un risque de délire identitaire. Bon, parce qu'on voit la droite, la extrême droite, mais on voit aussi certains courants que pousserait un peu une division entre travailleurs blancs et, je dirais, travailleurs non blancs. Je peux me répondre à cette critique faite, parce que là, c'est l'angoisse de dire oui, mais vous allez forcer les travailleurs blancs à voter Front National parce qu'à force de votation identitaire. Alors, je réponds à la question. Hein.
Je pense que la réponse aux questions de l'identité, c'est l'égalité. Oui. C'est-à-dire que on ne peut pas produire des séparation par les politiques de logement, par les politiques de salaire, etc. Et après, être étonné que ça a comme conséquence que certaines populations sont plus fréquemment entre elles qu'avec d'autres. Moi, je ne connais aucun immigré qui a choisi d'aller habiter uniquement sur le critère « il y a beaucoup d'Arabes dans tel quartier ou beaucoup de Noirs ». Donc c'est bien les politiques de logement telles qu'elles sont, avec des gestions ethniques de l'attribution par quartier, qui produisent ces dimensions identitaires incontrôlées, etc. Et donc la réponse à ça, c'est en matière scolaire, en matière de logement, c'est d'avoir une gestion égalitaire. Oui. Si on n'a pas ça, oui, on aura ce type d'effet. Le danger que vous... Oui, ça, mais ce qui produit ça, ce n'est pas les personnes, c'est le système social tel qu'il fonctionne.
Oui, le système capitaliste qui est divisé pour mieux régner.
Absolument.
On a divisé la classe dominée, on avait des hiérarchies, même dans l'esclavage, il y avait des hiérarchies, il y avait des esclaves privilégiés et des esclaves plus affaiblis.
La fonction du racisme, elle est très claire. Hein. Elle est d'amener Jean-Pierre ouvrier à se sentir plus proche de Jacques patron que Jean-Pierre ouvrier plus proche de Mohamed ouvrier. Et donc, cette identification, elle se passe au niveau d'une nation abstraite et non pas au niveau des intérêts sociaux. En fait, Jean-Pierre et Mohamed ont les mêmes intérêts. C'est le patron qui n'a pas les mêmes intérêts. Et donc, Donc oui, c'est ça le racisme, ça sert à ça.
Donc la peur, par exemple, pour Jean-Pierre de se sentir déclassé.
En réalité, la peur de la colère de Jean-Pierre face à ce que fait la classe dominante aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle paupérise, elle précarise, etc. Et comme on a peur de sa révolte, eh bien, on lui propose une autre explication. C'est-à-dire qu'on va lui dire, mais c'est pas ma politique économique qui produit la pauvreté, c'est ton voisin. Vous savez, il y a un poster qui a circulé dans le mouvement militant que je trouve pas mal, où on voit le patron qui dit à son ouvrier, regarde, pris un morceau de ton gâteau, alors que lui, il a tout le paquet de gâteaux, et qu'il a un gâteau pour deux qui est donné...
Je vois, après, ouais, divisé pour mieux régner, et... oui, l'infumage du discours migratoire.
Mmh. Absolument.
Pour mieux pas parler d'autre chose.
Hein. Absolument.
Ok, je te remercie.
De rien.
Ah ben là, de quoi vous rendez, bah, tout ça.
Oui, c'est sûr, oui.
Voilà, alors, pour un gâteau tout levé, sur le logement, c'est vrai que, parle de ghetto, mais enfin, qui a créé les ghettos? On rappelait quand même que la gestion de l'immigration, notamment en matière de logement, a été une gestion, disons, coloniale. D'abord parquer les travailleurs immigrés dans des bidonvilles, puis après dans des cités, mais alors des cités punition, comme à l'époque, Passin, c'était une cité punition.
Pour qu'il fallait tu mis les fameux foyers sur la côte.
Oui, voilà, aussi. Mais alors, foyers sur la côte, c'était pour les travailleurs célibataires, mais les cités Bassin pour des familles, par exemple, où il y avait une seule pièce, une seule ampoule pour éclairer tout l'immeuble. Alors, Bassin, ça a été reconstruit depuis. Hein.
Oui.
Mais disons que ça a été la cité et que si les personnes se comportaient mal, on l'a relogé à la cité Bassin.
D'accord.
Alors, après, oui, le bidonville, après des logements HLM qui au départ étaient pris par des travailleurs enfin, français de classe moyenne qui, après des années 80, ont commencé à, grâce à une politique immobilière à trouver sur des villas qui après ont été occupées par d'autres.
Donc, ils ont fini par s'acheter leur petit pavillon.
Voilà. C'est le cas de Parc Elysté qui au départ a été construit en 58 pour les Européens venant du Vietnam, d'Indochine, après l'indépendance. Alors, Parc Elysté, précise, ce ne sont pas des HLM, ce sont des logements privés.
D'accord.
Et qu'après, les anciens propriétaires, ou leurs descendants, ont loué à d'autres personnes et qui, au fil du temps, est devenu un ghetto mal entretenu. Quand c'est des copropriétés, c'est plus difficile. Donc, il y a ces cas-là aussi qu'on peut citer. Mais il y a eu toute une critique de la politique de logement qui fait qu'on a créé des ghettos en France, dans des quartiers populaires, et après, on oublie, oui, mais c'est des gros pas. Mais demain, si vous laissez les gens dans le même milieu social, dans le même contexte, on fait des ghettos comme aux États-Unis, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe occidentale, et après on se plaint du manque d'intégration. Bon, deux, la division évidemment entre travailleurs immigrés et travailleurs étrangers. Alors oui, j'ai pris esprit de prendre la référence à un document que vous pouvez vous consulter sur Gallia, c'est sur les archives nationales, c'est sur Internet, c'est facile à trouver. C'est la Provence italienne, un dossier de 1903. D'ailleurs, qu'on pourrait offrir à Bardella, qui est d'origine italienne.
Oui, par exemple, tu pourrais lui offrir, oui.
Oui, et c'est tout le discours de l'extrême droite. Les Italiens parlent très bien français. Les Italiens sont dans la délinquance. Couteau, c'est toujours eux.
En tout cas, il n'y a rien de nouveau sur le soleil.
Et que c'est le grand emplacement. Ah, tiens, c'est du Renaud Camus avant l'heure.
Bah oui. Bah écoute, de toute façon, c'est quand même assez classique. À partir du moment où la situation sociale se dégrade, il faut bien trouver un bouc émissaire.
Voilà.
Alors, bon, certains vont dire c'est le capitalisme, et d'autres vont dire c'est le capitalisme et les immigrés.
Oui.
C'est ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30 aussi.
Oui, voilà, bon, oui, la question des les juifs responsables de tous les maux de la crise.
Voilà, ce qui se passe maintenant aux États-Unis où quand il y a des soucis, bah, c'est la faute aux immigrés clandestins. Bon.
Que même c'est la campagne actuellement au Chili où l'extrême droite parle des réfugiés vénézuéliens responsables de la délinquance.
Mais
alors que la étude sociologique et criminelle démontre que non, la proportion est moindre. Et d'ailleurs, on a même constaté qu'en France, si on tient compte de la situation sociale des délinquants, c'est le même niveau social et correspond au pourcentage identique entre Français et immigrés.
Oui,
donc
bon.
C'est qu'une question de... La délinquance n'est pas le fait de l'immigration, mais le fait d'une situation sociale.
Mais si tu veux, disons qu'à une réponse complexe, on préférera un slogan très simple.
C'est très bien en politique de simplifier toutes les choses. La question de diviser pour mieux régner, le risque des travailleurs nationaux et étrangers, évidemment que ce n'est pas nouveau. Je rappelle que, par exemple, quand les Français sont mis en grève au secours et raffinerie fin 19e siècle, on a remplacé par les travailleurs immigrés italiens.
Et donc...
Et quand les Italiens sont mis en grève...
Les Français, donc, ont dénoncé ces salauds d'Italiens qui venaient...
Oui, ben, il y a eu même un discours de Jules Gueuze qui était marxiste en disant l'immigration ultramontaine qui fait pour faire baisser les salaires et diviser et même casser les grèves. Et quand les Italiens se sont syndiqués dans les années 20, on a fait remplacer les travailleurs italiens par des.
Les Polonais, là, je crois, non ?
Non, par des Algériens.
Oui, il y a aussi les Polonais aussi.
Voilà. Les Polonais dans les mines du Nord, oui, et d'ailleurs qui ont été exclus pendant la crise de 29, des années 30, avec l'accord de tous les partis politiques, y compris le Parti communiste. Que, voilà, la fête aussi du déclassement social qui fait que la peur. peur d'être des classes sociales fait que ça entraîne les discours des gens dans les bras de l'extrême droite, des classes, des gens qui sont en situation défavorisée. Pour remettre dans l'ordre du jour, travailleurs immigrés, travailleurs français, même patron, même combat. Ouais. Ça, combat des inégalités. C'est la concurrence entre travailleurs, et même au sein des travailleurs eux-mêmes aussi, hein, parce que pas nouveau dans l'histoire d'ailleurs des exploitations des dominants-dominés. Et aussi, bien sûr, la sémantique. Par exemple, on parle du wokisme actuellement, la menace wokisme. Moi, je me rappelle la menace bolchevique.
Oui, non, mais c'est sûr. Enfin, voilà. Bon, encore, c'est pas exactement la même chose, quoi.
Bolchevique.
Si tu veux, dans la mesure où ceux qu'on traite de woke ne sont pas forcément des gens qui prêchent la révolution, qui va en fait définitivement supprimer le capitalisme et abolir les classes sociales.
Non, sauf que le mot, c'est perçu comme des gens qui veulent changer les mentalités de la société, comme les bolcheviques voulaient changer le système économique. Enfin, bolchevique, en traversant les mots, en russe, ça veut dire majorité. Enfin, c'est la majorité d'un parti.
Et qui en fait était minoritaire.
Voilà, t'es vu minoritaire à l'époque, mais qui veut dire majorité en russe. Donc, et après, le terme s'est déformé en bolchevique en amenant un dangereux, affreux. Et après, le mot voque qui veut dire en fait en Amérique éveillé. Conscient d'eux. Donc, voilà, être conscient d'eux. Donc, et là, le mot déformé, d'ailleurs, tous ces mots-là ont été pris par les opposants de ces mouvements-là. Et après, évidemment, à l'époque, on parle de judéo-bolchevique.
Ouais, ben oui, bien sûr.
Voilà, donc, même dans les années 60, on parle des étudiants qui étaient manipulés, les fameux trotskistes judéo-bolchéviques.
Le juif allemand, comme Bendit aussi.
Entre autres, oui. Ou l'anarchiste allemand, selon Marché. Et juif allemand, selon Minute, journal d'extrême droite, aujourd'hui disparu. Et il y a aussi, bien sûr, remplacé par le terme d'islamo-gauchiste.
Oui, ça, c'est pas mal.
Voilà, donc, un nouveau terme à la mode, donc, pour désigner tous les gens qui critiquent la société. Donc, la sémantique, évidemment, le discours actuellement qui revient à la mode, l'enfumage sur l'immigration, sur le taux d'immigrés. Et récemment, le fameux sondage sur les musulmans, la pratique des musulmans en France, qui est un peu plus de musulmans qu'avant. Sauf que les musulmans en France représentent que 7% de la population.
Oui, on est loin du grand remplacement.
Que les athées et les catholiques sont à peu près égalité. Oui, pourcentage en France.
C'est voilà.
Alors que l'islam est la troisième religion en France, oui, mais avec 7%. Pas non plus une invasion totalement d'une religion, soit par d'autres. En plus, oubliant quand même concernant l'islamisme, que les islamistes recrutent sur des musulmans qui ont peu connaissance avec l'islam.
En général, oui.
Oui, alors que les musulmans qui ont une très grande connaissance de l'islam sont beaucoup plus hermétiques au discours islamiste radical.
D'accord.
Donc là aussi, la précision qu'il y ait plus de pratiquants chez les musulmans ne veut pas dire qu'il y ait plus de terroristes islamiques, bien entendu. Alors pour revenir à France Fanon, pour terminer, quand je dis France Fanon est un outil, évidemment que France Fanon est un outil d'analyse qui est un apport complémentaire des analyses marxistes, qui est la domination d'ordre psychiatrique et psychologique. Et quand il a l'intérêt de Franz Fanon dans ses études, c'est dominant-dominé, et la façon dont on fait en sorte que le dominé soit aliéné, que le dominé accepte son sort. C'est la méthode du colonialisme, mais qui a été employée aussi dans le monde ouvrier. Voilà, sur cette question-là. Alors, pour terminer l'émission, on va mettre une chanson de Zebda. Je rappelle d'accord. aux auditeurs que si vous êtes discriminé, vous pouvez contacter une association antiraciste comme le MRAP, la LICRA, SOS Racisme ou d'autres, ainsi que le Défenseur des Droits aussi, et que ces associations ont des avocats et vous pouvez poursuivre. Et bien sûr, les gens qui font de la discrimination sont beaucoup plus subtils. Vous connaissez la chanson de Zebda?
Oui,
je crois que ça va pas être possible.
C'est ça, oui.
On va faire cette chanson-là.
Je sais devant les portes d'entrée, pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées, avec 100 kilos de muscles à la clé. Devant trop de barbaques, c'est vrai je fais des rejets, mais je peux dire que je maîtrise le sujet. Les portes je connais, j'en ouvre tous les jours, mais j'en ai vu claquer plus souvent qu'à mon tour. Tiens, je vous fais un topo sur l'accueil entrée des boîtes.
Veuillez entrer, monsieur, votre présence nous flatte.
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Devant les boîtes, moi j'y suis toujours à la merci d'un imbécile à qui je sers de cible et qui me dit
oui, mais là je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être.
C'est comme ça.
Possible.
Oui.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être.
Non,
possible.
Exact.
De résistance, comme tout un chacun, j'ai bossé pour ma pitance. Et histoire de vivre convenablement, je me suis mis à la recherche d'un appartement. J'ai bichonné un excellent curriculum vitae, couleur et Macintosh à toute qualité. En prime irréprochable, situation morale, et même quelques feuilles de salaire.
La totale.
Allez, vas-y, Diodo, fais-leur le proprio.
Oh, c'est un
honneur pour moi, je vais vous montrer le patient.
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Quand il m'a vu, j'ai vu que tout s'est assombri. A-t-il senti que je ne lisais pas la Bible et il m'a dit:
ah oui, mais là je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Non.
Pas être.
Désolé.
Possible.
Comme ça.
Je crois que ça va pas être possible.
Et
pas
oui.
Être. Possible.
Mille excuses, monsieur.
Pour demain, j'ai placé quelques thunes pour un petit jardin, un petit nid et balcon sur la prairie des filtres avec piscine au bord de la Garonne.
Si, si, j'insiste.
Mais ce putain de bonheur n'est jamais dans le pré. J'ai appelé le bon sens près de chez vous pour un prêt. Mais les banques,
c'est les banques.
Comment vous dire,
les mots me manquent.
Alors je vous fais le topo des grosses têtes.
Ah, il vous manque des points pour compléter votre retraite, hein.
Vous devriez, me semble-t-il, pour assurer les traites,
mettre à jour et un terme à l'ensemble de vos dettes. Ah ouais,
et hein. Puis il a souri en me disant: c'est terrible, mais
je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Non.
Pas être possible.
Désolé.
Je crois que ça va pas être possible.
Non.
Pas être possible.
Ah non, pas possible.
L'affaire.
Cousine, cousine,
j'ai la patate à faire peur à la pile alcaline. Et je ferai pas comme celui qui va prendre un billet dans la chaleur de la nuit.
Et je sais tous les noms d'oiseaux dont on nous traite. Et un jour je sais bien que c'est nous qu'on fera la fête. À tous ces gens qui vivent dans les autres sphères, je vais les inviter à mon joyeux anniversaire. Et la plus de...
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a?
De rebelote.
Qui c'est celui-là?
Et à toutes ces tâches qui vous jugent à la figure, je leur ferai une justice avec les chaussures. Et quand ils voudront sortir, là ce sera terrible. Je leur dirai:
ah, je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Ah, non.
Pas être possible.
Non.
Je crois que ça va pas être possible. Pas être possible.
Bien sûr, si, c'est pas possible.
Je crois que ça va pas être possible. Pas être.
Non.
Je crois que ça va pas être possible,
même
ça va être possible.
Je
crois que ça va pas être possible,
non.
Pas être
désolé.
Possible.
Non, possible.
Je crois que ça va pas être possible,
non.
Pas être
non,
possible.
Non, pas possible.
Je crois que ça va pas être possible,
non.
Pas être
non,
possible.
Non, possible. Non, non.
Je crois que ça va pas être possible,
non,
pas
possible.
Être
non, pas possible.
Non, pas possible. Je crois que ça va pas être possible.
Possible,
non. Pas être
non.
Possible.
C'était L'histoire continue et permanente, une émission animée par Eric Lebreu sur les zones de Radio Galère 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.